Vous écoutez RTL.
11h et un peu plus de 3 minutes sur RTL. Comme promis, on retrouve Stéphane Bern à la bonne heure.
Absolument. Merci beaucoup Anne-Léna. Et on vous retrouve à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais pour l'heure, nous retrouvons notre invité d'à la bonne heure. C'est Jean-Phi Janssen. Eh oui.
Bonjour.
Eh oui. Une star, mais vous êtes devenue une star.
Mais il paraît, mais non, je ne suis pas une vedette. Hein.
Oh, bah si, quand même, moi je trouve. Parce que maintenant, des foules entières viennent vous voir sur scène. Enfin, bon, c'est
prosterner,
se prosterner.
Oui, des grosses foules, bah oui, c'est les gens, ils sont.
Et les passagers d'Air France se plaignent, ils ne vous voient plus.
Ah, bah c'est ça.
C'est ça,
ça leur manque.
Bah oui.
Il manque un petit brin de fantaisie dans les avions, hein, je te dis.
Alors, on va en parler. Moi, j'adore le jour où il a donné le code pour entrer dans le cockpit. Alors,
ça s'est bien terminé.
Non.
Ah, bah, c'est une histoire.
Je vais vous raconter l'anecdote.
Alors, je vous présente d'abord un petit camarade. L'air, vous le prenez, lui, il le chante. C'est Oldelaf qui nous montrera pour vous au 7e ciel après le journal de midi.
Exactement. Oh là là. Une chanson et j'ai même des documents.
Des documents?
Ah, des documents.
Quel genre de documents?
Compromettant.
Pour qui?
On verra, Stéphane.
D'accord.
Donc pour vous.
Donc pour moi. C'est toujours moi qui prends.
Oui, ouais, toujours moi.
Édouard Dutour est avec nous.
Bonjour
il
à tous.
Il a tout lu pour nous, en tout cas la presse People. Il nous en parle tout à l'heure.
J'ai pas trop lu Chateaubriand, mais la presse People, oui. À chacun son genre, Stéphane. Je vous laisse les lettres.
Les lettres. Moi, j'aime bien lire Chateaubriand. Je sais qu'on ne lit plus beaucoup, mais j'aime beaucoup Chateaubriand.
En tout cas, on va parler de famille, parce qu'on est star en famille.
Famille, je vous aime. Alors, voilà. Je ne suis pas certain qu'il pourrait vous piloter dans un avion. En revanche, sur scène, il est comme chez lui. Régis Maillot.
Bonjour.
Régis.
Bonjour.
Salut, on retrouvera quelqu'un que vous connaissez bien, paraît-il, dans le zapping d'Éric Dussard.
Bonjour à tous. Bah, c'est surtout moi qui connais Jean-Phi en tant que téléspectateur, puisqu'il a fait ses premiers pas à la télévision.
Ah oui.
Donc, on aura quelques extraits. Recherche appartement maison, apprendre ou à laisser. Des émissions où Jean-Phi a débuté, alors qu'il n'était pas encore humoriste. Mais on voyait bien le potentiel déjà à l'époque.
Ah oui, c'est remonté loin quand même.
Ah oui, il a des archives. Ouais. Tout ce qui vieillit, il adore. C'est pour ça qu'il m'aime bien.
Bah, c'est pour ça que je suis avec les fans
d'air. Exactement. Et on s'enverra en l'air avec le test musical de Patrice Carmouze. Consacré aux chansons qui nous font planer, qui nous font voler. Alors, à la clé, un magnifique cadeau, il faut que je vous le dise. C'est une semaine dans l'un des 80 villages de vacances VVF Village. C'est dans toutes les régions de France, et vous savez combien j'aime les villages de France. Et il y a des clubs pour les enfants, il y a des ados, des piscines, pour les animations, partout. Allez voir sur vvf-village.fr. Et à 11h40, nous serons en ligne avec quelqu'un qui est à la fois le père de 148 enfants de son deuxième roman, c'est Gilles Paris. Et oui.
Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux événements?
Non. Il écrit des livres et il fait des enfants.
À chaque fois qu'il écrit une ligne, il fait un gosse.
Parce qu'il écrit que deux romans en 15 ans. Donc
c'est pour ça qu'il faut autant de romans.
Mais c'est une banque du sperme qui va
vous
dire. Il y en a là-dedans, ça va vite.
C'est bien. Jean-Philippe, il est doué.
Il a mis à réfléchir aux grosses têtes. Nous, pas du tout.
Je vous présente notre invité. Embarquement immédiat avec l'une des révélations les plus réjouissantes dans l'univers de l'humour. Lui qui, comme Danny Boone, est un ch'ti fier de l'être et qui ne peut plus guère le cacher dans ses spectacles. On va encore dire qu'à Air France, les stewards sont payés à ne rien faire. Et s'il est en tournée triomphale à travers la France, c'est qu'il décolle sans avoir besoin d'attacher sa ceinture, ni même de la dégrafer, lui qui déshabille sa pensée en spectacle. Après tout, la cabine d'un avion ressemble à s'y méprendre à une scène de théâtre, tant il s'est inspiré des histoires glanées au fil des vols long courriers pour bâtir un one-man show où il raconte les aventures des passagers et des équipages et déballe ses valises de récits plus cocasses les uns que les autres. Après avoir montré sa tête chez Arthur et chez Stéphane Plaza, il est devenu une voix qui compte aux grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL, prenant le temps de se faire une place, y compris de se faire bizuter en petit mousse de l'amiral Olivier de Kersauzon, avant d'embarquer pour un voyage au long cours qu'il mènera toute l'année partout en France, même là où il n'y a pas d'aéroport. Plus qu'un avion à réaction, il est une fusée, je parle pas pour la carcasse, parce que c'est lisse comme une fusée, qui rit de tout et de lui-même, fait de sa vie un récit d'aventure épique, et s'il a la tête à 10 000 pieds dans les airs, il garde les pieds sur terre. C'est Jean-Phi Janssen.
Wow, quel joli portrait.
je me suis appliqué.
Ah oui, c'est très flatteur. Hein. Ouais, ouais. Je ne serais même pas décrit comme ça tellement que c'est beau, dis donc.
C'était la première fois pour vous. Habituellement, on recycle, mais vous voyez, c'était un premier
jour. Ah oui, il a une féerie dans son récit.
Ouais, oui, c'est ça. C'est comme un secret d'histoire, mais enfin...
C'est du Stéphane Bern.
Voilà. Alors, je vous propose une petite interview en vol.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec Jean-Philippe Janssen et je lui propose une interview en vol. Est-ce que toute votre vie, vous avez rêvé d'être une hôtesse de l'air et d'avoir les
fesses? Oui, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bar d'en haut.
Ah, et les fesses en l'air,
c'est vrai. Oui, c'est ça, les fesses en l'air, oui, les fesses en l'air, oui, mais l'avion, non. Mais non, c'est un hasard qui m'a mené dans les avions. En fait, j'avais entrepris d'ouvrir des boutiques de prêt-à-porter quand j'étais jeune. Ça a super bien marché parce que j'ai fait faillite au bout de 3 ans. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, et Air France recrutait énormément à cette époque. Et j'ai une copine qui m'a dit, bah, moi, je te vois bien en steward. Et c'est sur cette phrase que je suis parti. Je n'étais jamais monté dans un avion. Et j'ai fait toute la formation dans une formation spécialisée aérienne. Et je suis rentré à Air France. Mais ma première fois dans un avion, je n'étais jamais monté dans l'avion. Mais je faisais croire aux gens que je maîtrisais moins l'environnement.
Grande expérience.
Ils ont dû être très surpris.
Les issues, c'est quoi? Vous connaissez les gestes?
J'avais toute la formation théorique, mais alors le reste, on aurait dit un pingouin dimanche.
PNC aux portes. Contrôlez vos vis-à-vis.
Stéphane fait très bien la chorégraphie pour montrer les issues de secours.
C'est une chorégraphie un peu bizarre d'ailleurs.
Mais c'est du théâtre.
On va en parler. Est-ce qu'un passager vous a déjà demandé si vous pouviez ouvrir la fenêtre parce qu'il avait trop chaud?
Non, il m'a demandé si on pouvait ouvrir la porte parce qu'il n'était pas bien, qu'il voulait sortir. Après vous. Des questions. Donc, il y avait la dame qui essayait d'ouvrir la porte, mais c'est, sauf qu'en attitude, c'est des portes bouchantes, tu ne peux pas les ouvrir.
On
se dit à tous morts.
C'est-à-dire, il y avait un con pour l'ouvrir.
Ça a créé un mouvement de panique. Ils ont dit, va ouvrir la porte.
La sécurité enfant.
Est-ce que vous auriez voulu être un artiste pour pouvoir faire votre numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio?
Oh, à Rio surtout.
Oui. C'est pourquoi vrai, on s'est retrouvé à Rio pour soir de fête à Rio, qui va passer au mois de juillet sur France 2.
Une petite bossa comme ça.
Vous aviez des adresses, parce qu'en plus, vous alliez souvent à Rio, vous étiez souvent en escale à Rio.
Ah, c'était ma destination préférée. Donc, et j'avais le droit de choisir un vol par mois. Dans notre planning, on a le droit d'en choisir un. Et donc, moi, c'était à Rio. Voilà. Le Brésil, il y a 3 jours.
Pour le repos,
comptent.
Évidemment.
Le foot, la religion, le sexe. Si t'es dans un de ces 3 trucs-là, tout va bien.
Et vous,
c'est le foot.
Et vous, c'est la religion.
Il faut dire que...
Vous êtes très pieux.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Je veux dire que l'hôtel, oui,
j'aime bien me recueillir souvent à genoux. Il faut dire que l'hôtel où est logé le personnel d'Air France à Rio est pile entre la plage d'Ipanema et Copacabana. Et là, il y a sexe et foot. Hein. Choisir
ça. Vous allez faire un tour, apparemment.
Oui, il y a les surfers.
Et donc, c'est tout.
Non, c'est un point panoramique très intéressant.
Voilà.
Et il se passe des choses. On sent qu'on est dans le cœur de la ville. Mais non, j'ai jamais rêvé d'être un artiste. Enfin, j'ai toujours voulu faire rire. Voilà, j'ai aimé faire rire les passagers. Je veux dire, les passagers à bord, c'est un public. Hein. En plus, ils sont obligés de m'écouter, pas faire sortir. Donc,
Vous êtes toujours très gentil. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vouloir voler dans les plumes de quelqu'un?
Non, je reste patient parce que de toute façon, je représente une compagnie. Hein, c'est pas Jean-Philippe qui parle aux passagers, c'est Air France. Hein, quoi.
Ouais.
Alors, mais des fois, tu sens que c'est un peu. Ouais, c'est à la limite. Mais parce que les gens sont un peu. Ils sont terribles. Hein, tu sais, quand ils ne sont pas chez eux, les gens, des fois, c'est incroyable. Tu vois, par exemple, dans un long vol, on a 2 services. Et entre 2 services, on installe un buffet parce que le vol est long, donc on met des petits sandwichs. Ouais. Mais les gens, c'est eux, tu vois. Donc, t'arrives avec la corbeille de sandwichs, t'as l'impression de rentrer dans un poulailler.
C'est la guerre
civile. Comme des suricates, ils se lèvent tous ces gens et ils viennent chercher 4-5 sandwichs par personne. Et après, il n'y a plus pour les autres. Tu dis, les autres, on y a droit.
Mais ça, c'est en classe économique. Je ne connais pas.
Oui, c'est pour ça que je n'y vais plus. Non. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait du monde derrière le rideau.
Ah, oui. Faut se cacher.
Est-ce que pour. Il y a déjà un passager qui vous a demandé si le pilote pouvait voler plus bas pour mieux voir la mer?
Non. Non, on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de parachute. Pourquoi le pilote ne mettait pas de parachute? Je dis, mais parce que c'est à cette altitude, même si tu sors, tout à l'intérieur explose, on a besoin du parachute.
Ça va bien se passer,
Ouais.
Bon, ça plane pour vous?
Ouais, là, ça plane, oui.
Ouais. Ouais. Ben, on va continuer de planer ensemble. Et on va éviter les trous d'air et on va retrouver...
Mais pas les perturbations, je pense qu'on va en avoir avec Jean-Phi.
Oui, il y aura quelques perturbations qu'on aime. On va retrouver Jean-Phi Janssen dans un court instant pour la suite d'À la bonne heure.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Jean-Phi Janssen pour son spectacle. Alors, je vous donnerai des dates. Parce que vous allez être un peu partout en tournée en France.
Ah oui, international, dans toute la France.
Faut pas exagérer, vous êtes à Cavaillon le 18 mai,
oui.
Saint-Martin-Boulogne le 19 mai,
oui.
Rochefort 25-26 mai, c'est au festival,
oui.
Un festival Cormet-le-Royal le 27 mai, ensuite Dinard au mois de juin, Rouen, Lyon, enfin un peu partout.
Les frontières ont été redessinées, vous savez pas?
Non, je savais pas du tout. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est votre parcours. Vous êtes... votre spectacle s'appelle Jean-Phi d'école. Évidemment, c'est très drôle et autobiographique. Vous parlez de votre expérience à Air France, c'est pour ça que ça s'appelle d'école. Mais vous racontez votre parcours depuis votre enfance dans le Nord, au moment où vous avez participé à Recherche un appartement avec Stéphane Plaza. Et puis en passant évidemment par vos années de steward, les relations avec votre maman, dont vous faites un personnage central.
Ah oui, c'est la muse du spectacle.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à la scène? C'est quoi le déclic?
On n'arrêtait pas de me dire à bord, Jean-Phi, t'as de la répartie, Jean-Phi, tu sais quoi dire aux passagers, tu fais rire tout le monde. J'avais une façon de narrer les anecdotes que je vivais dans l'avion à mes collègues ou aux passagers qui disaient, ah, vous avez un don, voilà.
Et vous les avez cru?
Non, justement, j'ai dit oui, mais bon, faire rire les copains et faire rire les gens, c'est quand même pas pareil que monter sur scène et transposer aux gens. Donc j'ai une copine qui a pris les devants et qui m'a inscrit un concours d'humoriste à mon détriment et qui m'a prévenu, m'a dit bah maintenant t'as plus qu'à faire 10 minutes de sketch et donc je suis allé là-dessus, je dis bon allez on essaye. Et c'était le printemps du rire ce concours et on était 400 au départ et je suis arrivé finaliste. Et,
ah oui, incroyable.
Et là je me suis dit ouais tiens il se passe quelque chose en fait. Oui. Donc je me suis rendu compte que ça intéressait et après je me suis rendu compte que l'avion ça intéresse les gens, les coulisses de l'avion, c'est un truc qui, c'est un monde qui fascine l'avion. C'est les gens, il y a l'image qui s'en font et ce qui se passe dedans. Ils veulent savoir s'il y a un décalage, si les hôtesses sont comme.
Il y a des décalages horaires parfois.
Ah oui, du jet lag, ah oui. mais ils veulent savoir comment ça se passe dans l'avion. Ils ont la curiosité, ça les fascine. D'ailleurs, il y a toujours des gens pour regarder les avions décoller. Même moi, 18 ans dans les avions, je suis encore étonné que le machin il se lève pour voler, disons.
Oui. Vous disiez ça aux passagers pour le décollage?
Oui.
Étonnamment, nous avons réussi à décoller.
Pourtant, on est chargé, hein, je comprends pas.
Ah, la grosse dame, au quatrième rang.
Bougez pas, c'est pour le centrage.
Vous n'avez jamais peur?
Moi non, j'ai eu deux frayeurs dans l'avion, mais parce qu'il se passait vraiment quelque chose pour le coup. Il y a le train d'atterrissage qui voulait pas sortir, et là c'est embêtant hein, parce qu'on se posait sur le ventre.
Ouais,
donc on avait préparé les passagers à une position d'atterrissage d'urgence, hein, donc c'est une position un peu groupée comme ça, tu vois, il faut qu'ils se crispent. Et puis au dernier moment, le machin est sorti, le train de secours.
Oh là là.
Il a fait chtouing. Je dis, eh ben ça c'est bien de farcer les gens comme ça. et après des très forts.
Mais là vous êtes vachement angoissé. Même, non
là, j'étais pas bien, oui. Mais il fallait rien montrer. Il fallait juguler la panique. Il y avait une dame qui a commencé à paniquer, qui filait une tarniole, t'es obligé.
Ah bon?
Bah, parce que c'est la panique, c'est contagieux. Tu te tais. Voilà.
C'est Yatina pilote dans l'avion, quoi.
Et après, j'ai eu des très très fortes turbulences sur un vol Johannesburg-Paris. Au moment qu'on passe l'équateur, tu sais, il y a les zones de convection, les orages, machin. Et ben là, j'ai vu l'avion tout qui volait. Voilà. Puis c'est fort une turbulence, c'est saccadé. Et donc tout ce qui n'était pas attaché a volé au plafond. Les hôtesses aussi.
Dont des passagers?
Il y a un monsieur qui est retombé, il s'est pris la coude d'oeil, une fracture ouverte. À l'époque, c'était encore les gros écrans télé, mais dans les écrans plats, des grosses télés qui descendaient comme chez ta grand-mère.
Ah, c'était les tubes cathodiques?
Oui, c'est ça. Et bien, ces machins-là, ils sont décrochés, sont tombés sur la tête des gens.
Non.
Ils ne verront plus la télé du même façon.
Vous jouez beaucoup de vos origines ch'ti.
Oui.
Oui.
J'ai...
Vous forcez l'accent.
Je l'ai naturellement quand j'explique un truc aux gens parce que je trouve que c'est des intonations qui rendent sympathique.
Oui.
Dans l'avion, je m'en suis toujours servi parce que je ne parlais pas normalement, hein, je parlais comme ça aux gens. Parce que ça fait comme un Canadien quand il vous parle, vous dites forcément qu'ils sont gentils en parlant comme ça.
Oui. Ouais.
Et bien là, les gens disent pareil. Moi, j'ai désamorcé plein de conflits avec cet accent-là et c'est de l'humour. Les gens, ils disent bon, ça va, c'est gentil, il est sympathique.
La dame que vous avez baffée, par exemple,
Oui,
c'est vrai,
content. Alors, c'est rigolo.
Mais alors, France, vous a jamais demandé non, de l'abandonner, l'accent?
Ben non, parce que c'est un peu. Ben si, si.
Au début, ouais.
C'est parce que j'avais pas un chef derrière moi, mais ouais. Si je devais respecter les standards, bien sûr que ça aurait pas été. Tu vois, c'est un peu. On représente le chic français à l'étranger quand même. Hein. Ouais.
Alors, justement, vous représentez toujours Air France ou pas? Vous êtes dedans ou dehors de l'entreprise?
Je suis encore en dedans, figure-toi. j'ai pris un congé sabbatique.
Ah, c'est un congé sabbatique. Ouais. Et comme ça, vous pourrez aviser si vous restez ou vous restez pas.
Ouais, c'était surtout au début, c'était sécurisant pour moi de me dire. Ouais. Parce que moi, quand j'ai annoncé ça.
On s'étonne que la compagnie soit en plein déficit.
Bah, mais non, mais
il paye rien.
Ah non, moi, je vais faire des économies à la compagnie, oui. Bon.
Et si jamais vous avez envie d'y revenir, vous pouvez y retourner.
Je reprends mon poste là que j'ai laissé.
La stupeur des passagers si vous voient débarquer.
Ouais, même moi, ma stupeur à moi, j'ai dit qu'est-ce que je fais là. Non, mais j'adorais mon métier, mais c'est vrai que c'était sécurisant pour moi d'avoir cette alternative. Parce que quand j'ai dit à mes parents, mon père, ouvrier syndicaliste toute sa vie, quand je suis rentré à Air France, pour eux, c'est comme si j'étais fonctionnaire. Et quand j'ai dit à mon père, papa, je vais faire artiste, je vais monter sur scène, j'arrête Air France. Il m'a dit, mais il n'est pas bien, lui. Et j'ai dit, fonctionnaire, il va faire salta à Baroque maintenant. Et ma mère a dit, mais puisque je te dis qu'il va percer. Voilà. Elle est médium, mais elle est raisonnée.
Alors justement, c'est un vrai personnage. Elle a beaucoup de succès maintenant dans son village.
Ah bah oui, elle est toute fière, je peux te dire.
Ah oui.
Ouais, mais en plus, je vais jouer à la salle des fêtes du village pour faire plaisir à mes parents. C'est pour faire plaisir à mes parents. Oui. Hein. Au mois de juillet, tu diras à ma mère, Jean-Fifre l'Olympiole, il faudrait. Mais par contre, tu dis, viens jouer au village. Oh, la salle des fêtes. Parce qu'il y a tout le monde qui est devenu noble à ma mère. Hein.
Elle traverse la route comme ça, tu vois.
Ah oui. Ah, tu pourrais faire une émission, Stéphane Bern.
Il s'appelle comment?
Je suis Madame Janssen. Oui, Madame Janssen.
On embrasse très fort Madame Janssen.
On embrasse maman.
Il y avait cette question, c'est aux grossettes, vous avez donc révélé cette histoire, le code pour que les hôtesses de l'air utilisent pour entrer dans le cockpit.
Une histoire.
Mais ça a fait un drame pas possible, il paraît.
Oui, national, oui.
Oui.
Non, mais
il se trouve que c'est le même numéro. C'est partout. J'étais... Pour tous les avions.
Ah bon? Ah oui, c'est un problème.
Il a donné.
Oui, oui.
Non.
Le code nucléaire, vous l'avez donné. Je ne vais pas répéter l'histoire, mais. Parce que, hein, quand même.
Ils l'ont changé, je pense. Hein.
Oui, oui, ils l'ont changé.
J'espère.
J'ai donné le fameux code qui était. Hunter. Ouais. Une facilité déconcertante. Et je dis ça à Laurent Bouquet. Je dis, il n'y a que les hôtesses qui s'en souviennent pas. Parce que c'est un code très facile. Style 000 Hunter, tu vois. Et il me dit, alors on rigole là-dessus, ça passe pour une blague. Mais en sortant de l'émission, je dis. Peut-être que j'aurais pas dû le dire, ce truc-là. Mais on le trouvait sur Internet, et ça fait 20 ans que c'est le même code, tu vois. Donc,
du coup,
mais bon, je me suis dit quand même, et le lendemain, j'ai vu Jacques faire descendre et me dire le code que vous avez donné hier, c'est pas le vrai code. J'ai dit, ben si. Et il m'a dit, mon Dieu, il y a Boeing qui appelle, il y a Airbus qui appelle, il y a Air France qui appelle. Il a fallu changer.
Et ils ont dû tous changer le code.
Vous nous avez rendu service, en fait.
Voilà, c'est un code d'accord.
Oui, je suis un héros en fait.
Ouais. Ou un salaud, je ne sais pas.
Un peu des deux, un peu.
Un peu des deux.
Non, mais mia culpa.
Non, mais c'est drôle.
Boulette, ça s'appelle une boulette. Hein.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Nous sommes toujours avec Jean-Philippe Janssen qui sera partout en France. Alors, comment on peut trouver les dates de votre tournée?
Alors, y a un petit tableau récapitulatif qui est sur la page fan Facebook qui s'appelle Jean-Philippe Janssen, hein, avec un F, le Jean-Philippe.
Oui.
Et là, vous trouverez tous les renseignements. Ou alors sur les sites de vente, billets réduits, il y a toutes les dates qui s'inscrivent.
Jean-Philippe Janssen, Jean-Philippe en tournée, voilà.
Ouais.
Et ben, on va retrouver maintenant, vous êtes devenu un people. Hein, même si on voit, on entend plus votre voix qu'on ne voit votre visage.
C'est ça qui est très confortable pour moi. On me reconnaît si je parle, mais si je parle pas, j'arrive encore à faire
bonne nuit. Si vous forcez pas l'accent, on vous reconnaît pas.
Ah non, je bonjour.
Oui. Et bien, justement, à propos des people, nous avons un décrypteur ici qui est parfait. C'est Édouard Dutour qui a lu la presse people pour nous.
Les people de la semaine d'Édouard Dutour sont à la une.
Alors, chers amis, chers Stéphane, chers Jean-Philippe, hein, vous qui êtes un peu le fils, le bébé éprouvette de Danny Boone et Pierre Palmade, la semaine people est familiale, je vous l'avais annoncé. Alors évidemment, il y a un hold-up, hein, c'est fait par un banquier, il y a un hold-up people, c'est les Macron qui sont en tête dans les urnes, évidemment, et dans les unes des magazines. Alors la nouvelle qui est chouette, je trouve, c'est que ça change un peu, c'est qu'on découvre cette semaine, dans tous les hebdomadaires people, la maman du petit Emmanuel, hein, donc pas Brigitte, la vraie qui s'appelle Françoise, qui est ancien médecin conseil à la sécurité sociale, qui a l'air très sympa, qui a une bonne tête comme tout, et qui a l'air d'avoir les beaux yeux de son fils. Alors côté garçon, je m'entraîne bien dans la famille, j'essaye de les dissocier, parce qu'il y a un conflit de génération un petit peu. Donc il y a le frère de Macron, qu'on découvre dans Paris Match, qui est cardiologue, si je ne me trompe pas. Il y a le fils de Brigitte, Sébastien. Il y a les conjoints de Tiffaine et Laurence, Antoine et Guillaume. Donc tout ça, il faut suivre. Hein. C'est à peu près tous des garçons qui ont à peu près tous le même âge.
Il y a beaucoup de toubibs, des avocats.
Il y a beaucoup de toubibs, beaucoup de médecins aussi. Surtout. Et puis alors, là, après, là, on est encore troublé. Eh bien, c'est quand la page suivante, on nous présente l'éventuel futur président de la République qui a à peine 40 ans, en grand-père, avec le petit Aurel dans les bras. Donc voilà, c'est toute une famille. Il va falloir, si tout va bien, s'entraîner, aller dissocier. Alors c'est ça, et curiosité oblige, hein, je me suis penché un petit peu sur le cas des Le Pen. Eh bien, que dalle. Ah bon? Walou, pas un Louis Alliot à l'horizon, hein, le compagnon de Marine Le Pen. Pas une photo avec les trois enfants de Marine, hein, trois adolescents, Jeanne, Louis et Mathilde, hein, des grands ados qu'elle a eu avec son premier mari, un certain Franck Chauffroy, un nom de dessert, hein, Semi-Fredo Chauffroy. Alors c'est un beau mec.
C'est vrai, je savais pas que
oui, c'était un beau mec, un peu bad boy, vous savez, qui s'occupait des tentes à cocktail quand il y avait des fêtes à Montretout. Vous savez, quand il y a un cocktail dans le jardin, on monte des tentes.
Des barnoles.
Voilà, il travaillait dans l'entreprise.
Des tentes à cocktail. Oui,
ils sont très tentes à cocktail.
C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Et on met le bâtonnet.
Et on peut lire dans la presse qu'avec ce garçon, ils se sont croisés aussi au restaurant Place de l'Étoile, qui s'appelle L'Aventure, et qui était le fameux restaurant que fréquentait DSK avec Dominique Dodo Lassemure. Il avait serré la femme de Dodo Lassemure dans les toilettes.
Ça s'appelait vraiment L'Aventure, en plus.
Ça s'appelait vraiment L'Aventure. Voilà.
Ça veut dire que...
Je suis allé à l'aventure. Patrice.
Une aventure. Donc, aucune image de Marine en famille, ni avec ses enfants, ni avec ses parents, parce que avec Jean-Marie, c'est pas la fête. Et puis, Pierrette non plus, elle se fait très discrète. Pourtant, à une époque, elle avait le sens de la mise en scène. Voilà, à croire que Marine roucoule avec Philippot, hein, puisque c'est surtout avec lui qu'on le voit. Mais il paraît, selon Voici, qu'il est un peu Marie Toutoule, comme vous dites. Marie Toutoule.
C'est ce qui. C'est quoi cette expression?
Jean-Philippe va nous expliquer. C'est ce qu'on appelle un gay dans le Nord. Enfin, ma mère l'appelle comme ça, un gay.
Un Marie Toutoule.
Tu as dit Marie couche-toi là, dit Marie salope, et t'as dit Marie Toutoule.
Voilà. Donc, Marie Toutoule et Marie salope.
Louis Agneau, lui, elle savait.
Alors, on change de famille. Pardon,
Toutoule, on ne sait pas pourquoi.
On va dans Vanity Fair, on change de famille. Et là, c'est super, il y a un papier formidable qui est le portrait croisé entre deux frères, les deux Guetta. Donc, d'un côté, David, hein, le DJ Akati, et puis de l'autre côté, Bernard, hein, l'économiste qui officie tous les matins sur une radio concurrente. Vous voyez quand même deux frères, deux salles, deux ambiances. Voilà. Alors il y en a un, en gros, pour schématiser,
demi-frères.
Ils n'ont pas la même mère.
C'est Mifredo aussi.
Alors en gros, pour schématiser, Stéphane, c'est un peu comme vous et moi, c'est-à-dire il y en a un qui se couche à l'heure où l'autre se lève.
Le point commun, c'est qu'ils ont tous un peu les deux le même disque.
Hein. Ils connaissent l'argent. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils racontent que quand Vanity Fair a proposé le portrait, évidemment, Bernard s'est précipité pour dire oui, parce que Bernard Guetta n'est pas une personnalité très connue. Je pense qu'il était content d'être dans Vanity Fair, alors qu'il a fallu deux mois pour trouver une date avec David, tellement c'est un DJ overbooké dans le monde, qui reçoit le journaliste dans un sublime appartement londonien où il vit maintenant, après avoir passé 3 ans à l'hôtel, parce qu'il a eu une crise. David, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il a divorcé avec... Il a une crise de la quarantaine.
Il n'est plus avec Cathy.
Il n'est plus avec Cathy.
Il a quitté Cathy.
Il a quitté Cathy.
Il y a longtemps.
Et donc, à ce moment-là, il appelle son grand frère. Il dit, je vais divorcer. Je ne suis pas bien, j'ai des attaques de panique. J'ai la crise de la quarantaine. Et Bernard Guetta, un peu secoué, lui dit, écoute, tu verras, la crise de la soixantaine, c'est bien pire. Voilà, donc c'est un super papier.
Très bonne imitation de Bernard Guetta.
C'est bien pire. Super papier dans Vanity Fair. Et puis enfin, pour finir dans Elle, un hebdomadaire dans lequel je ne parle jamais puisque j'y travaille, mais là je fais exception. Il y a deux histoires de famille super. Il y a la fille de Yannick Noah qui est en couverture, et d'ailleurs
c'est la femme de son fils, la fille de Yannick Noah qui est
en couverture. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle l'était déjà il y a 18 ans quand elle était bébé dans les bras de sa mère Heather, le fameux mannequin vedette. Et puis il y a aussi une interview très émouvante de Nathalie Riquiel, la fille de Sonia, qui revient, qui a disparu l'an dernier, qui revient, qui parle de sa mère, elle fait un livre et c'est entre adoration et dévoration, et c'est magnifique. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Edouard Dutour. Voilà, on sait tout ce qui se passe dans la presse.
Juste la question, elle fait quoi la fille de Yannick Noah dans la vie?
Elle est mannequin.
Elle est mannequin.
On est mannequin de mère en fille.
Oui. Moi aussi.
Pardon?
Oui. Moi aussi, nous on est mannequin de mère en fille.
Ça vous va très bien les talons.
Allez, on retrouve Jean-Philippe Janssen. C'est l'épreuve de vérité. C'est vrai que...
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors, Jean-Philippe, vous avez atteint, il faut bien le dire, une certaine notoriété grâce notamment aux grosses têtes de Laurent Ruquier. Mais justement, à propos de tête, cette célébrité vous est venue rapidement, mais ne vous est jamais montée à la tête. Et comment vous faites pour garder les pieds sur terre, justement ?
Ben, non, je sais pas. Déjà, j'ai été très étonné, moi, je suis très surpris de l'impact que la radio a eu sur la fulgurance que ça a eu sur le spectacle, sur tout ce qu'ils ont. Je savais bien que ça ferait quelque chose, mais à ce point, donc c'est une très bonne surprise. Mais au début, c'était angoissant. Je dis, ça allait tellement vite. Je dis, va y avoir un prix à payer, il y a une facture, on va m'envoyer la facture. Voilà. Donc, j'étais sur mes doutes en disant, c'est pas possible.
Non, c'est à vous d'envoyer la facture. Vous devez vous faire payer normalement. Hein.
Je me fais payer. Mais du coup, c'était une jolie histoire qui se mettait en place, et puis je doutais beaucoup, tu vois, parce que arriver au milieu des grosses têtes qui étaient une institution avec des gens qui ont un passif médiatique, et moi je sortais de nulle part.
Ils ont un passif médiatique.
Oui, j'appelle ça un passif médiatique.
Ah oui.
T'as confondu. Oui, ils ont un passif médiatique.
Ils ont un passif aussi.
Ah bah oui, mais non, ils ont des passés, des passifs médiatiques.
Ça dépend lesquels.
C'est là qu'ils ont fait des boulettes. Ils ont fait des boulettes comme moi, car moi j'ai un passif médiatique avec le code.
Bah oui,
ça c'est un. Mais du coup, voilà. Donc j'avais tout approuvé, puis je voulais pas décevoir Laurent qui m'avait tendu la main. Je me mettais au taquet le matin à 10h du matin pour aider, parce que j'avais peur, et puis de prendre la parole, surtout, c'est impressionnant, un Bénichou, un Kersauzon, un... Et puis moi, jeune petite
abeille.
Mais au
début, Christine Bravo vous a dit, vas-y, charrie-moi, ça va te faire du bien, ça va te faire progresser.
Ça m'a aidé, ça m'a donné la tonalité, parce qu'elle a bien vu que j'arrivais pour la première émission, et elle m'a dit... Elle m'a dit, défonce-moi. Ah j'ai dit, pardon, qu'est-ce qu'elle a dit ?
Je ne mange pas de ce pain-là.
J'ai dit, mais je veux bien, mais il faudra revenir à côté. Et elle m'a dit, défonce-moi, moi j'ai l'habitude, toi ça va t'aider. Donc je me suis beaucoup appuyé sur elle sur la
elle
première émission. Ça,
médiatique,
ça m'a permis de trouver la mécanique, en fait.
Vous ne m'avez jamais dit ça pour mes premières
non.
télés,
Stéphane.
Non, mais je suis avec vous.
Je ne suis pas du genre.
Du coup, maintenant, moi,
du genre à jouer.
Je dis, défonce-moi.
Alors, il y a d'autres questions. Pas tous en même temps.
Vous êtes attiré par le paranormal. Les voyantes, l'horoscope. Et il paraît qu'il y a une voyante qui vous a prédit qu'en 2016, la banque ne vous appellerait plus pour vous dire que vous avez un déficit.
Oui, j'étais à Avignon cet été et j'avais un médium, c'est pas une, mais un c'est médium. Un médium, et qui m'a dit hein, parce que bon, j'étais un peu dubitatif, et il a regardé mes mains, tout ça, il a fêté une boule de cristal, tout ça, grosse affrusca, et il a dit. En octobre, la banque arrêtera de t'appeler pour te réveiller. Et c'est vrai que c'est la banque, tous les matins, elle m'appelait, parce que là, quand tu commences la vie d'artiste, c'est un peu compliqué. Oui. Moi, je quittais Air France, 18 ans d'ancienneté, plus rien du tout. J'ai divisé mon salaire par 4. Il y a eu les théâtres, c'était très fluctuant. Les attentats à Paris, il y a eu pas mal de dommages collatéraux. Ce qui fait que j'en étais à mon 5e Cofidis, mon 3e CTLM. Et voilà, du coup, je savais plus ce que je voulais dire.
Mais ça va mieux.
Ah oui, et la banque m'appelait tous les jours, et tous les jours, elle me disait, Monsieur Janssen, votre compte est débiteur, à 8h du matin. Et moi, je dis, je vais le rebiter. Voilà,
Alors, attendez, 2h du matin,
que je me lève. J'ai une question de liquide. D'autres questions.
Ouais, on parle évidemment énormément de votre passage sur la France, mais vous avez eu d'autres métiers dans la vie. Lesquels ?
Ah, dans l'ordre ?
Dans l'ordre, allez. Par exemple, à 7, qu'est-ce que vous avez fait à 7 ?
À 7, j'avais un magasin de prêt-à-porter féminin haut de gamme.
Ah bon ?
J'en ai des robes et des chapeaux, tout ça. Oui, c'est ça que j'ai fait faillite. C'est là que j'ai commencé à connaître les banques, et puis un petit copain un peu foireux. Enfin bref, tout était combiné pour que ça ne marche pas. Et donc la première année, c'était très bien. J'ai acheté une maison parce que ça marchait bien. Ouais. Deuxième année, j'ai fait mettre la piscine. La troisième année, j'ai acheté une belle voiture. Et la quatrième année, les huissiers sont tous venus chercher, dis donc.
C'était le copain, l'huissier.
Et le petit copain, il est parti aussi avec la caisse.
Une belle année. Hein. Ouais.
Donc, c'est là que je suis retombé sur mes pattes et j'ai fait Air France. Mais j'ai eu d'autres vies aussi. J'ai eu un élevage de chats persans.
Ah ouais. Oula, ouais. C'est éclectique. Hein,
j'avais une oui. C'est compliqué, par contre, c'est beaucoup de boulot.
Ouais,
c'est, j'avais une chatterie à côté avec une vingtaine de chats. Ah bah, c'était mon petit copain. J'ai toujours des petits copains qui ont des manies de cinglés à chaque fois. Ouais. Et moi, par amour, je fais d'accord, ça sera ma passion aussi. J'ai même fait la formation de juge félin. Je jugeais les chats. Juge félin.
C'est fou.
Ah, je peux dire quand je vois une panthère, je peux dire si elle est bien ou pas. Hein.
C'est bizarre. C'est bizarre d'avoir un petit copain qui aime les chats.
Présent de petit copain, vous avez confessé avoir déjà essayé le Viagra juste pour voir ce que ça faisait, mais vous n'avez jamais raconté à l'antenne ce que ça faisait. C'est peut-être le moment, non ?
Vous avez fait un effet physique exceptionnel. Enfin, c'est sur demande. Hein. C'est-à-dire que c'est pas contre ton gré. Si ton cerveau, il dit ah, ta louloute ne monte pas, elle ne montera pas.
Ah bah voilà.
Mais par contre, si toi, tu as envie que tu es excité et que tu sais que tu as peut-être un petit peu fatigué, un petit peu pas bien, ben non, là, mécaniquement, ça fait fou. Et pendant 24 heures, tu peux avoir cet effet ressort.
Ressort. Le gros cabaret.
Merci, Pilami. Juste bien, attachez votre ceinture, hein, parce qu'il va falloir qu'à un moment, il va falloir se poser.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Jean-Philippe Janssen, qui est en tournée. Et vous avez le temps de lire un peu ou pas du tout ?
Ah ben non, j'aime bien les bouquins avec des images, tout ça. Non, oui, si, j'ai un peu, mais plus des magazines. J'ai pas le temps de me plonger dans un bouquin en ce moment.
Donc, écoutez, nous, on va parler d'un livre, Le Vertige des Falaises, publié par Gilles Paris. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane.
Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas encore, on peut dire que vous parlez généralement du roman des autres, parce que vous êtes l'un des attachés de presse
des livres des autres.
Voilà, oui. Le plus connu du monde de l'édition. Mais là, on va parler de vous. Vous aviez écrit, c'était en 2002, l'histoire d'un orphelin. Ça s'appelait Autobiographie d'une courgette. Ça a été un immense succès de librairie, adapté à la télévision et surtout Ma vie de courgette de Claude Barras, César du meilleur film d'animation, avec même une nomination aux Oscars. C'est pas rien, quand même.
Un vrai conte de fées, Stéphane. Une histoire incroyable, quoi. 800 000 téléspectateurs en France.
Oui.
50 pays vendus, près de 20 prix, dans ceux que vous avez cités. Et aussi un César de la meilleure adaptation remis à Céline Sciamma, la scénariste.
Alors, vous écrivez peu, mais vous écrivez bien. 15 ans plus tard, vous avez mis 15 ans pour votre deuxième roman, Le Vertige des Falaises. Alors, encore une enfant qui est votre héroïne, Marnie, mais c'est d'abord l'histoire d'une famille qui vit dans une maison de verre et d'acier sur une île qui est un peu indéfinissable, mais alors redoutable, hein.
Redoutable, indéfinissable, pour que le lecteur justement n'ait pas de repère, qu'il puisse entrer directement dans ce huis clos, dans cette histoire à suspense, dans ce secret de famille terrible.
Oui. Et alors, mais voilà, c'est toujours les secrets de famille qui vous attirent.
C'est-à-dire que la famille est un terreau formidable pour les écrivains. Une famille à qui tout réussit, à qui tout va bien, tout le monde s'en fout. En fait, on cherche la fragilité chez les gens.
Vous avez perdu la 4G là, hein.
Oui. Non, mais c'est vrai que vous avez. Comment vous faites pour vous. Vous n'avez pas 15 ans. Vous vous mettez parfaitement à la place des enfants.
Parce que c'est en moi depuis 40 ans. Bizarre, et puis surtout, là, j'ai fait même un pari presque au-delà de ça, puisque c'est surtout une histoire de femmes, de générations de femmes. Il y a une grand-mère qui s'appelle Olivia. Il y a une belle-fille qui s'appelle Rose. Il y a une petite fille dont on vient de parler qui s'appelle Marnie. Il y a une intendante. Il y a sa fille aveugle. Il y a une fleuriste. Donc je suis rentré dans la peau des femmes, littéralement, dans leur sensibilité et dans leurs failles qui m'intéressent.
En tout cas, Tatiana Dronet, qui s'y connaît, écrit: vous avez aimé Courgette, alors vous allez adorer Marnie. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Et puis c'est un merveilleux parrainage. Oui.
Mais je vous remercie infiniment, Stéphane.
Alors, on peut pas vous laisser partir. Enfin, d'ailleurs, vous êtes, voilà, sans dire un mot de l'article d'un journal dans lequel vous révélez que vous avez près de 150 enfants dans le monde entier. Enfin, moi, ça m'a impressionné.
148, j'y tiens beaucoup.
148. 148 enfants.
Non, jetez deux.
Non, ne jetez rien.
Dans les prouvettes. Quand j'avais une vingtaine d'années, en fait, entre 1980 et 1992, voilà, j'étais jeune, j'étais insouciant, j'avais besoin de sous pour payer mon loyer. J'ai été donneur de sperme et voilà, et c'est comme ça que j'en ai fait naître 148.
Ah bah oui. Mais comment vous savez le nombre exact ?
Parce qu'on était très copains avec les médecins et qu'ils nous ont fini par me dire entre 1985 et 92 que j'en avais fait naître 148, ce qui fait que j'ignore combien j'en ai fait naître entre 1980 et 1985.
Ah oui, est-ce que dans la rue, parfois, vous en voyez qui vous ressemblent?
Dire que j'ai fait tout ça gratos. Bon, voilà,
quand je pense à tout cet argent que j'ai perdu.
Stéphane, mais ça paye vraiment
c'était
le loyer.
Bien payé.
Ah oui, parce que chaque fois que j'y allais, c'était 300 francs à l'époque. Vous
savez, c'était un jerrycan, non, 300 francs.
Il vous en payait en liquide.
Stéphane. jour.
Okay. Je peux dire un mot?
Oui, Régis.
Papa.
Oui, mon fils.
Oui. Je suis tellement content.
En tout cas, je comprends que vous mettiez à la place des enfants, oui. Parce qu'avec le nombre que vous avez fait... En tout cas, non, le vertige des falaises.
Évidemment, je les vois avec des pancartes.
Ouais. Oui. Il y a eu un film comme ça.
Oui, oui, avec José Garcia, non?
Oui, tout le monde arrivait. Ouais.
Tout le monde était prêt à donner un petit coup de main.
Ouais. Alors, le vertige des falaises, c'est très bien écrit, hein, c'est chez Plomb. C'est du Gilles Paris, voilà. Merci Gilles. Et avec toutes nos amitiés d'à la bonne heure, voilà.
Ah bah oui, c'est bien.
Bah oui, on aime bien Gilles Paris.
On sait du coup que dans sa carrière, il s'est quand même beaucoup masturbé à la base.
Ah non, ça sort tout seul.
Ah bon, c'est inquiétant. Il n'y a pas des aspirants. Comme des aspirants.
C'est auto-pompé.
Ah. Oh non, Jean-Philippe.
Excusez-moi, ça a dérapé.
Oui, ça a dérapé. Eh bien, on va retrouver maintenant Éric Dussard et les abîmes télé.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Eric, on commence avec un cadeau pour Jean-Phi.
Oui, on l'a dit, vous êtes fan d'astrologie, de voyants. Eh bien, je vais vous offrir les meilleurs, Jean-Phi. Les voyants de la chaîne IDF1, qui ont vraiment vu juste, alors ces derniers mois, au sujet de la présidentielle. Ah oui. Hein. Écoutez, Yann Barthès a fait un petit montage dans son émission sur TMC de leurs prédictions.
Concernant Macron, j'y crois pas trop.
Non. Ah, il avait prédit qui comme président?
Moi, je vois de toute façon Fillon qui a un destin présidentiel, donc pour moi, ce sera lui, ouais, qui sera élu, donc sans ambiguïté.
On rajoutera donc tout ça à la liste des pronostics politiques d'IDF.
Un petit tour d'horizon, chers amis, pour avoir votre sentiment, vos impressions, vos émotions sur ces fameuses primaires.
Je vois un premier tour exceptionnel, en tout cas pour Sarkozy. Moi, ouais, je vois assez clairement en astrologie que M. Hollande va se représenter.
Non, mais attendez, on se moque pas, ça se trouve, oui, à finir par y aller, François Hollande. Hein, il reste encore 10 jours. Hein.
Entre les deux tours.
On sait pas. Hein.
Alors, bien sûr, aligner les planètes, on dirait. Hein,
mais... Ah, ils sont pas Elisabeth bien alignés.
Elisabeth Tissier avait annoncé, oui, la victoire de François Fillon.
François Fillon, ouais.
Oui. Oui, bah oui. Elle pourrait aller bosser sur IDF. Hein,
toujours donc, au top.
Alors, je sais pas si ces voyants avaient vu juste à votre sujet, les voyants d'IDF1, Jean-Phi. En tout cas, une chose est sûre. Tous ceux qui vous ont vu en 2014 dans l'émission de Stéphane Plaza sur M6, eux, ils ne sont pas étonnés du tout de ce qui vous est arrivé depuis. Vous avez été un candidat dont la production se souvient encore. Et pour cause, avec vous, la recherche d'appartement, ça déménage.
À Paris, Stéphane Plaza va faire la connaissance de Jean-Philippe, un personnage haut en couleur.
Je retrouve pas le carton où j'ai mis mes slips. C'est embêtant, hein? J'adore.
Tu te sens bien?
Ah, ça fait monter ma libido.
Ah, mais je ne savais pas qu'on prenait un appartement aussi.
J'ai un réel désir pour cet appartement.
Oui, bah doucement quand même. Les toilettes?
Les toilettes.
Ah oui, mais j'aime bien les commodités en bas, ça m'évite de salir chez moi.
Ah, c'est toujours important. Ouais. Les petites crèmes, il faut y penser.
Ah, mais j'y pense, j'ai le 13e mois en injection sur la gueule déjà.
Dis donc, il t'a loupé.
Mais c'est quand même la seule fois dans l'histoire de l'émission où Stéphane Plaza a rencontré quelqu'un encore plus dingue que lui. Il avait été désarçonné. D'ailleurs, vous avez bossé ensemble ensuite, hein?
Oui, on est, ouais, resté en contact, mais après l'émission.
Vous avez jamais pris l'appart?
Non, j'ai pas eu le financement.
C'est ça, vous avez pas eu le prêt, ouais, parce qu'on, oui, était resté, ouais, un peu en
suspens. Lui, il a fait sa mission, là, il a trouvé un appartement, mais à l'époque, j'avais vu un peu ma banque qui m'appelait pendant que j'étais débiteur.
À l'époque.
Elle avait fait une simulation et elle s'était un petit peu emballée en disant: oh, bah, Stéphane Plaza, oh, bah, oui, vous pouvez aller jusqu'à cette somme-là, tu vois. Moi, je dis ça à Stéphane Plaza, il a orienté toute sa recherche sur cette somme, ouais, sauf qu'en gros, on était une fourchette de 50 000 euros trop haut. Donc j'ai fait 48 banques, j'ai suivi 48 refus, et 48 qui m'ont jugé, qui ont regardé dans ma vie, qui ont regardé mes fiches de paye, qui ont dit oui, mais ça, mais si. Ouais, à la fin, ça, j'en avais marre, j'ai dit, mais fallait que je pouvais l'acheter, mais en gros, je le payais sur 150 ans, fallait que je le loue Airbnb,
hypothéqué 500
ans. Ouais. Enfin, j'ai dit non, je ne veux pas un appartement comme un boulet.
Et les banques aujourd'hui vous rappellent en disant, on va miser sur vous.
Non, c'est Plaza qui me dit, bon, d'ici la fin de l'année, du coup, on achète un appartement.
Ce ne sera plus le même budget, à mon avis, que ce premier appartement.
Non, j'ai acheté la Tour Eiffel.
Ouais, ça va. Bon, on l'a dit, c'est pas le seul jeu télé auquel vous avez participé, Jean-Phi. On vous a aussi vu sur TF1 dans Apprendre ou la laisser. Vous savez, c'était l'émission des boîtes, oui, avec Arthur. Oui. Vous avez quand même remporté 75 000 euros,
oui,
dans ce jeu. Hein, c'est pas mal du tout. En même temps, bon, vous aussi, vous avez été un vrai jackpot pour cette émission. Vous avez fait le show dans tous les numéros de cette émission auquel vous avez participé, notamment quand vous aviez mis en boîte justement un candidat qui avait pour passion, vous vous souvenez, de citer des proverbes.
Ah oui.
Vous voulez vous donner un proverbe aujourd'hui? Ça sera: même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Arthur.
C'est jamais clair, ces proverbes, on peut en inventer, il dit n'importe quoi, je suis sûr.
Hey, non, même... pas de calé, inventez-moi un proverbe.
Qui mange des crêpes a peur des guêpes. Qui a de la moustache sans la goulache. Aussi, j'ai une chanson.
Allez, on vous écoute.
Airlifte, airbeste, frotte de boudin quand elle vient de Philomène.
Je sais que c'est pas mal cette chanson. On comprend pas trop, ça raconte quoi?
On sent toute l'élégance et raffinement.
J'imagine bien.
De ce que, oui, ça veut dire rabaisse-toi, relève-toi, frotte ton ventre contre le mien, Philomène.
C'est bien ce que je craignais. Ouais, donc, c'est pas faire un tube de l'été.
C'est une chanson à boire,
voyez-vous. Et à déguster.
Bah, après alors, boire.
Votre meilleur passage, quand même, dans Apprendre ou à laisser, c'est cette émission où vous aviez parlé de votre métier de l'époque, donc steward, et du côté extrêmement contraignant de cette profession.
C'est fatigant.
Ah ouais?
Ouais.
Faut rattraper le décalage horaire, tout ça. C'est beaucoup de contraintes. C'est pas de vie sociale, c'est pas pouvoir prendre ses rendez-vous comme tout le monde, c'est toujours décalé. C'est se réveiller la tête dans le derrière, pas forcément le sien.
Oh ben, et tout ça à 19h sur TF1, mais vous êtes fous.
Donc là, je reste cohérent avec moi-même jusque maintenant. Hein, je pense que...
Il faut l'être.
Non, mais Arthur, il a dû vous proposer de devenir chroniqueur ensuite, non? Après vous avoir vu dans cette émission.
Non, mais j'ai fait énormément d'émissions en plateau parce que, en fait, c'est un tirage au sort et les candidats passaient au milieu ensuite. Et je savais que tant que je dirais des conneries, on ne ferait pas passer. Ouais. Donc à moi, j'ai dit, il faut que. Parce que lui, il venait... j'ai dit des conneries comme ça qui sont passées au zapping de Canal à l'époque.
Bien sûr.
Et donc tous les jours, il arrivait en me disant, tu trouves une connerie hein? Donc je me mettais à la pression en disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui? Mais je voulais faire ce jeu parce que c'est encore une période de disette dans ma vie, vous avez, j'en ai beaucoup. Et je regardais ce jeu, je dis quand même, c'est quand même con ce jeu. T'ouvres des boîtes, il y a de l'argent dedans.
Ouais, ça, ouais, on fait pas plus con. Hein.
Ah, tu serais à la question pour un champion, il fallait super calé, j'aurais eu deux dictionnaires. Hein, donc ouais, j'avais choisi mon cas.
Vous n'auriez pas eu les 75 000 euros, ça c'est sûr.
Ah, c'est sûr. Ah, oui, ça.
On rappelle, Jean-Philippe, que vous êtes évidemment l'un des participants aux grosses têtes.
Oui, à ne pas confondre avec ceux qui ont vraiment la grosse tête, ça, ce sont les témoins d'Evelyne Thomas dans C'est mon choix.
Donc vous me disiez que vous étiez super beau.
Ah mais magnifique. Après, je peux ne pas plaire, mais moi je me trouve un visage symétrique, un corps, on dirait une statue grecque.
Vous êtes une star ?
Je me considère comme.
Est-ce que vous vivez comme une star ?
Ah complètement. C'est resto, boîte, chicha, je sors qu'avec des belles filles. Enfin, je suis pas n'importe qui, quoi.
Mais il dit n'importe quoi, en revanche. Je précise que ce jeune homme travaille dans une entreprise de pompes funèbres, ce qui est bien normal, puisqu'aucune personne vivante ne pourrait le supporter. Au moins, ses clients ne bronchent pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais lui, je pense qu'on va pas tarder à le retrouver dans une télé-réalité. Il a le profil. Ou encore dans une émission type Les Reines du Shopping. Vous savez, l'émission de relooking de votre collègue, Christina Cordula, qu'on retrouve également dans Les Grosses Têtes, où l'on relook vraiment tout, même les expressions comme illico presto. Écoutez, c'était hier soir.
Bon, mon général, faut s'activer, là. Plus qu'une heure
37. 1h37. On va s'activer. On s'active.
Moi, j'aurais changé de boutique, là. Illico Macias, là.
Comment ?
Illico Macias, là. Va voir ailleurs, parce que ça va pas du tout, hein.
Mais il fallait voir Illico Macias au concert d'Enrico Presto, également. Hein. C'est pas la première fois, on l'avait déjà entendu dans Les Anges, mais vous voyez, après, ça diffuse. Maintenant, c'était donc dans Les Reines du Shopping, hier soir. Ouais. Allez, après Les Reines du Shopping, on va rester dans le glamour. Une bien jolie info santé, entendue hier midi sur C8.
C'est une étude scientifique extrêmement sérieuse, hein, je ne déconne pas, qui a mis en lumière le fait de manger ses crottes de nez était bon pour la santé. La morve contiendrait des bonnes bactéries qui protégeraient les dents contre les mauvaises caries.
Les mauvaises caries, oui, parce qu'il y a de bonnes caries, donc j'imagine, par conséquent. Ça ne vaut que si vous mangez votre propre production, naturellement.
Oui.
Si vous le faites avec celle
de l'autre. Ouais.
Et ça va mieux pour les caries, mais la laine en revanche. C'est moins
bon
bien.
Bon appétit si vous êtes à table.
Bien
c'est
sûr.
C'est bon pour les caries uniquement si on se mange pas les dents.
On apprend des choses dans cette émission.
Les gens qui parlent de ces études disent toujours très sérieux.
Très sérieux. Hein. Quand on entend très sérieux, vous êtes sûr que c'est une connerie, l'étude.
Et on termine avec une note d'espoir.
Oui, vous vous souvenez qu'hier, on a écouté un extrait des Anges de la télé-réalité qui montrait que ça allait très mal chez eux, qu'il y avait de grandes, grandes tensions. Ils étaient tout colère, les pauvres. Eh bien, ouf, ça va beaucoup mieux. Quelqu'un leur a mis du baume au cœur.
Fabrice s'en va, c'est vrai qu'il nous a amené une vague de fraîcheur, une bonne ambiance quand même, de bonnes nouvelles. Après, vraiment, le départ de John, c'était un peu lourd et là, il nous a redonné du souffle au cœur.
Il vous a donné un souffle au cœur ? Il faut aller voir le cardiologue au plus vite. Hein. C'est très très dangereux le souffle au cœur.
C'est pas une très très bonne nouvelle s'il a un souffle au cœur.
Non, non, voilà. Non, c'est que ça va pas mieux du tout. Du
on va retrouver dans un instant Jean-Philippe Janssen qui est en tournée dans toute la France. Une tournée triomphale, évidemment. Et puis on va continuer à parler de vous quand même parce qu'il y a plein de choses à savoir encore sur vous.
Bah, merci, c'est gentil. Oui. On dresse un portrait, c'est un portrait.
Et on va voir. Et puis Old Olaf vous a préparé une petite chanson.
Ah, j'aime bien Old Olaf.
On va voir ça dans un instant. Allez, on se retrouve pour la suite de La Bonne Heure dans un court instant.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à La Bonne Heure.
Et je voulais annoncer, nous sommes toujours avec Jean-Philippe Janssen, mais voici l'heure d'Old Olaf.
Parole.
Écoute-moi.
Olaf.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane et bonjour mon Jean-Phi. Alors, je sais que dans le métier, il est de coutume que tout le monde se vouvoie, ça fait chic et sérieux, mais là, bon, je me permets de casser ce code et de te tutoyer comme on le fait à chaque fois qu'on se voit, puisqu'aujourd'hui, c'est un compain qu'on reçoit. Jean-Phi, on se connaît depuis 2 ans maintenant, on s'est croisés sur des galas à Avignon, bien sûr, à ton spectacle, au mien. Et un jour, je me rappelle que je t'avais dit cette chose, ton spectacle est généreux, la frontière fugace entre autobiographie et critique sociale nous met face à l'aveu que l'on se fait de nos propres espérances déchirées par la dualité entre la représentation et l'expression de soi, et tu m'as dit cette chose dont je me souviendrai toujours.
Hein ? Bah quoi ?
Alors, le plaisir de te recevoir est partagé aussi par Stéphane, hein, qui l'a dit, vous vous connaissez bien, vous avez d'ailleurs récemment enregistré une émission pour France 2 à Rio de Janeiro, dans laquelle vous nous réservez bien de jolis moments vocaux, vraiment.
Alors, Jean-Phi, comme on est sous la douche, j'avais justement une idée, on chante sous la douche.
On chante sous la pluie, normalement.
Non, c'est sous la douche aussi.
Oui, on chante.
On chante sous la douche. Oui. Alors, il se trouve qu'on est ici à Copacabana.
Là, au Copa. Ah. Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana, là au Copa, Copacabana, passion et paillettes, ce sont des mots magiques là au Copa, comme ils s'aimaient.
Ça veut rien dire hein, en français.
Bon, alors désolé Eric, je te prends un peu ton boulot, mais moi je passe des extraits du futur. Merci vrai, messieurs.
On les repassera. Hein.
Ouais. Non mais c'est vrai que dans la chanson en français, Lynn Renault elle dit Havana.
Havana.
Mais
oui,
à la Havane, c'est tout à Cuba, fait. C'est ah, pas à Copacabana.
C'est ça, on apprend voilà,
que Copacabana est la fin d'un banquet de chasse.
Alors quoi qu'il en soit, bon, il n'était pas pensable pour moi aussi de ne pas pousser la chansonnette aujourd'hui. Jean-Phi. Il s'appelle Jean-Phi, on est fou de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais nous on l'aime, c'est pas notre faute. La vie est si belle, il travaille sur RTL. Jean-Phi, il s'appelle Jean-Phi, c'est un bon ami. La première fois que je l'ai vu, son spectacle m'avait pas trop plu. Je lui ai seulement dit sympa, quelle belle énergie. Il était 15h du matin, pour Avignon c'est le matin. J'étais sous depuis le mois de juin. C'est son prod qui m'a invité, son spectacle racontait sa vie. Sauf que lui, il est payé. Oh Jean-Phi, il s'appelle Jean-Phi, c'est une folle, un ch'ti. Dans sa tête, y'a que de la musique, mais quand il chante, j'avoue que ça pique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Jean-Phi, il s'appelle Jean-Phi. Oui, il y a pas que ça, c'est Jean-Phi. On jouait ensemble, j'étais la star, mais maintenant c'est lui qu'on vient voir. Et tout le monde me dit oh, c'est vrai, tu connais Jean-Phi. Oui, je sais, il aime les avions, il veut pas entendre raison. Steward, c'est pas un métier. Tous les soirs, il m'amène danser dans des endroits très très gais, où il a un bon ami. Oh, Bernie, il s'appelle Bernie, c'est l'ami de Jean-Phi. C'est mon animateur fétiche, mais au test de Carmouze, il triche. Et du coup, je sais que je gagnerai jamais.
Bravo,
bravo.
Hold the love.
Oh bravo!
Bah oui, c'est bien avoir une chanson pour soi.
Une chanson pour soi, c'est émotionnant quand même.
J'ai fait paroles et musique.
Eh oui,
c'est
eh
votre
oui.
mère qui doit pleurer là. Non
ah bah musique. Là, elle doit être derrière le poste avec des gros mouchoirs, enfin des torchons parce que c'est trop petit les mouchoirs.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et alors, c'est le moment avec Jean-Philippe Janssen du ou. Faut me dire ce que vous préférez, vous choisissez. Laurent Ruquier ou Stéphane Plaza ?
Laurent Ruquier.
Ah oui, carrément.
Oui, c'est différent.
Laurent Ruquier ou Stéphane Plaza ?
C'est où c'est, non, non.
Il faut choisir. C'est décollage plus... ou atterrissage ?
Atterrissage.
C'est moins dangereux ?
Ben, c'est qu'on est arrivé.
Ouais, c'est ça.
C'est la fin du boulot.
me renseigne. Le jour ou la nuit?
À la nuit.
La nuit. Vie professionnelle ou vie privée?
Vie professionnelle.
Le nord ou le sud?
Le nord.
Non. Vous préférez la chirurgie esthétique ou le botox?
Le botox.
Votre sœur ou sa petite amie?
Ma sœur. Fais-moi peur.
Non. Fais-moi peur.
Clara elle s'appelle, je crois, c'est ça?
Non, c'est une ancienne, ça, parce que là-dedans aussi, il y a des divorces et tout ça.
Ah, oui.
Et c'est pas à se remettre, puis elles se battent, à vous voir. C'est...
Ah oui?
Ah oui, mais c'est des camionneurs, tout ça. Hein. Ah. À coup de cri qui... Nous, on donne des coups de sac à main, mais elle se bat avec son cri que de voiture.
On a inversé les rôles, c'est tout.
Voilà, fromage, c'est fromage ou dessert?
Dessert.
Dessert. Vérifiez votre vis-à-vis ou bouclez votre ceinture?
Vérifiez mon vis-à-vis.
Ah, pas mal. Vous préférez vacances en famille ou vacances entre amis?
Entre amis.
Entre amis.
Oui, vacances entre amis.
Très bien.
La famille, c'est à longueur d'année, mais vacances, c'est entre amis. Et on fait une pause.
On fait une pause de temps en temps.
Oui.
Très bien. Mais c'est vrai que vous avez, ce qui est fou, c'est que vous dites tout. Vous n'avez pas de filtre, en fait.
Oui, mais c'est à mon détriment aussi.
Enfin, vous trouvez
ça, Non, c'est pas mon détriment, mais c'est-à-dire que je suis spontané et je dis les choses, je vais au bout, j'ai beaucoup d'autodérision, mais des fois je sors de ce que j'ai dit, je dis quand même, j'ai dit bien beaucoup de conneries aujourd'hui.
Mais par exemple, je peux raconter, mais quand on était en tournage à Rio, et comme j'ai des rides sur le front, vous m'avez dit non, mais tu devrais faire du botox, regarde, moi ça marche. Et donc, je me suis dit, mais peu de gens vous disent ça.
Oui, c'est nature peinture. Enfin, je l'ai donné comme un conseil, mais bon, c'était pour en discuter. C'est pas une critique.
Mais ça me fait peur, moi, parce que c'est du poison de serpent, quand même.
Du poison de serpent.
Bah, surtout à Rio, c'était vraiment le bon endroit, parce que ça, il y a à tous les coins de rue, quand même.
Ça fait des années qu'on injecte du poison de serpent. Regarde, parce que j'ai une tête de vipère, je vous le demande. J'ai de la langue.
Mais langue de vipère. Ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est bien.
Mais c'est pas pour changer sa tête, hein, parce qu'il y en a, bon, ils se perdent, hein, tu vois, un petit peu. Il y a des filles, elles ont un zodiac à la place de la bouche, quand même. Hein, mais non, moi, c'est juste pour rester frais. Tu vois, je veux rester frais. C'est un métier où il fallait être en représentation tout le temps et rester frais.
Mais vous fâchez
pas.
Et
je me voyais pas, moi, vieux steward à pousser ma charrette, tu vois, qui me sert de déambulateur, tu vois. je voulais avoir l'air frais, tout tendu. Du coup, voilà, c'est vrai que. Oui. Mais il suffit que je l'ai dit une fois. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens. Mais non, je n'ai pas de secret.
Mais beaucoup de gens le font et n'osent pas le dire.
Oui, moi je le fais, je le dis.
Voilà, exactement. C'est un vrai naturel. Voilà, mais c'est ça que j'aime chez Jean-Fou, moi. On va retrouver Patrice Carmouze. Vous connaissez bien la chanson.
Oui.
Ça tombe bien, il y a le quiz, le test musical. Et alors, si vous n'êtes pas inscrit, appelez au 3210 ou 74-900 avec le code BONHEUR pour vous inscrire si vous voulez participer au test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, je rappelle, Patrice, que nous jouons pour faire gagner une semaine de vacances dans l'un des 80 villages VVF Village de France. C'est des endroits où il y a pour tous les goûts, évidemment. 4 personnes en famille ou entre amis et en une semaine en pension complète. Voilà, c'est quand même sympa, non ?
Vous allez peut-être faire le bonheur de Martine avec Jean-Phi.
Oui, et les autres font le bonheur de Brice. Voilà. Marseille.
Alors, ce sont des chansons qui parlent.
Mais Martine habite à Saint-Lan-de-Milune.
Et alors?
Eh bien, parce que j'ai vécu à Saint-Lan-de-Milune.
Ah, mais c'est où?
C'est juste à côté de Lyon. C'est entre Lyon et Écully. Je prenais le 69 et puis. Je prenais le bus et puis on.
C'est un joli village.
Quelle ligne, le numéro de la ligne de bus?
C'est puis à Saint-Lan-de-Milune.
De mémoire, c'est le 52.
Le 52, Martine, appelez-nous. Il y a le 52 existe encore.
Non, je crois. Et en tout cas.
Lan-de-Milune.
J'habitais à l'horloge. L'horloge de Saint-Lan-de-Milune.
Moi j'étais au feu rouge.
C'est vrai qu'il y a 2001 à Culli.
Allez, c'est parti.
Alors, donc, ce sont des chansons qui concernent les avions, le vol, etc. Donc il faut juste reconnaître qui chante et on commence par vous deux.
Allô, papa, dans notre
C'est Mort Schumann, non?
Oui, c'est ça.
Bravo.
Appétit.
Dirigé, placé vers le triangle des perdus. Papa Tango Charlie, je vous entends très bien. Ici Papa Tango Charlie,
C'est comme ça qu'on a appris comment piloter les avions.
1-0.
Alors, le reste du monde, c'est à vous, c'est facile aussi.
Plastique Bertrand. Celui qui chantait pour Plastique Bertrand.
Alors, on ne sait pas qui, si c'est lui ou si c'est pas lui.
On n'a jamais su.
Il a dit que c'était pas lui.
Oui, mais son producteur a dit que c'est pas lui. Lui, il dit que c'est lui.
Non, c'est vrai, il y a conflit toujours.
La voix était en plastique aussi.
Il faut faire un secret d'histoire, Stéphane Bern.
Une question grave.
Sur Plastique Bertrand.
Je crois que c'est une question plutôt d'argent que de plastique.
Alors, attention, cette chanson, on la connaît, mais qui la chantait ?
Ah, je sais.
C'est la version de Cadmera.
Cadmera, c'est pas Cadmera.
Moi, j'ai le chanteur, le vrai, si vous voulez. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien.
Oui, mais attendez.
Ah. Je crois que le point va vous revenir.
Vous devriez savoir, parce que ça...
Histoire d'air.
Non, pas d'indice. Oh
Mika, j'ai dit Monaco, comme un indice.
Pas d'indice, Monaco, il y a dit.
Glace.
Monaco,
histoire d'air.
Métro,
à pas.
Quelqu'un qui a écrit
R. Non, ben trop tard alors.
C'est R. Kelly.
R. Kelly.
De toute façon, même si vous aviez trouvé que tous ces indices, ça n'aurait pas été légal. Je sais bien que Martine est votre cousine, mais.
C'est Robert.
Non.
Robert
Kelly.
Non, mais laissez gagner Martine, elle habite à Tassin. Attention, mais elle peut gagner encore, mais.
Véronique Jeannot.
Ouais, mais c'était pas une réponse.
C'est
facile quand même.
Oh, c'est dur pour nous. C'est vrai. Ouais. Ok, je vais copier alors.
C'est Aviateur.
Exactement.
Aviateur, Gain.
Alors là, tiens, j'ai ramassé là vous me dites tout. Ah, oui.
Sur Véronique Jeannot.
Eh ben, dis donc. Ramassé quoi
là, dragué en boîte, tu sais.
Ah, oui.
Je faisais l'aviateur.
On l'appelait Post-Café.
Post-Café, on passait Véronique Jeannot en boîte.
Alors, autre chanson. Alors là, vous me dites tout le titre de la chanson ou le groupe qui le. Qui joue.
Ce qui vient. Ah, c'est Orchestral Man of the Dark.
Oui,
bravo.
C'était bon ça.
C'est bon ça.
C'est là-dessus.
Et dans la gay.
C'était du rêve. Ouais, on a dansé.
C'est pas très gay, hein,
des
c'est
l'avion qui est franchement
là-dessus. Ouais. Oui, c'était l'avion qui allait larguer les bombes atomiques.
Bon, ça c'est facile.
C'est du tronc.
La voix. Les fesses en l'air.
En fait, on fait un peu n'oubliez pas les paroles en même temps. Tu vois, il y a deux concepts.
Bah, alors, autre chanson pour vous maintenant.
Sinatra.
Sinatra.
Swing
Among
the Stars.
Ouais, pour moi, c'est pour moi uniquement.
Pourquoi ?
Je suis pas seul à vouloir voler dans la lune.
Non, mais c'est à vous de répondre. Oui, il y en a plein qui veulent voler dans la lune. Et même Tassin la demi-lune.
Tassin la demi-lune.
Autre.
Vous moquez pas des lunes.
Autre extrait.
Je m'en vais.
Ah, bah oui. Beko.
Dimanche à Orly.
Voir les avions à Orly.
Monsieur 100 000 vols.
Absolument.
Il y a Brel qui a écrit la chanson.
Oui, mais Brel aussi. Hein. Que c'est triste.
Non, Orly. Dimanche. C'est triste, qui est bien plus belle que celle-ci.
Oh, elle est jolie, celle-là aussi.
Ouais. Mais c'est une.
Orly, l'autre est un peu plus triste.
Ah, c'est une chanson absolue.
Maintenant, c'est à vous encore, mais ça vous est arrivé aussi.
Ah, je l'ai. À travers les nuages.
Et puis Nicolas Perret.
Non,
attendez.
On l'a.
Et Jacques Higelin.
Oui.
Quatre partout. Vous dites à Jean-Fils, ça vous est arrivé. Non,
ça vous est
heureusement,
arrivé
jamais.
Ciel. Bah, si. Ça vous êtes des dépressions comme ça, hop, dans les avions.
C'est le début ressemble à une chanson de
Nicolas Perret. C'est
mauvais perdant.
Non, mais c'est bon. Donc, ouais, à vous maintenant.
Alors,
c'est
Charles Lebois.
Avec
sa cousine.
Ipan American.
Fabien Thibault.
Non.
Charles Lebois.
Non,
c'est Charles Lebois. Ah non, il y a le nom de la chanteuse.
Non, mais c'est Charles.
Là, alors c'est Louis Charles Lebois.
C'est Charles Lebois.
Oui, c'est un de ses tubes. 5-4.
Charles Lebois, ça marche.
Du monde.
À vous maintenant, on va égaliser.
Ah bah, vous
avez
gagné ça un autre jour.
Moi, je l'ai, moi, ça.
Ah. Kawa.
Team Ride.
Oui, bravo.
Ah, yes.
Oui, on a égalisé.
Bravo, je pense.
Joli.
Alors maintenant, il faut aller à vous.
Sonny
Chardin,
oui.
Il y en a souvent qui connaissent.
C'est ça,
bah ouais.
Sonny Chardin.
Oui, mais ils sont quatre. Ils sont quatre contre deux.
Et ça, c'est pas loyal.
Ouais, mais sans les réponses.
Ouais, mais on n'a pas la liste, c'est ça.
Moi non plus.
Non, mais Stéphane, là.
Oui, mais. J'ai pas été honnête, gentil.
Allez, si vous êtes égalisés là, on fera un super bon combat entre tout le monde. Donc, il faut égaliser. C'était le feuilleton avec Tanguy et la verdure, vous vous souvenez de ça ?
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday.
Et vous, c'est Johnny, comme dans le nom, on dit Johnny.
Johnny, oui, on dit Johnny.
Alors, attention, là, attention, il faut le faire. Donc, tout le monde joue.
C'est parti.
Yannick Noah.
Non. Philippe Daville.
Perrac.
Non, mais là, il n'a pas chanté encore.
Attention, là, qu'on appelle un avion, peut-être le
seul. Patrick Bruel.
Oui.
Waouh. Bravo.
C'est la fille du monde.
Bravo. Ah oui. C'est la fille de l'aéroport.
Ah oui, sa chanson. Bruel qui chante du raga, c'est bizarre. Hein.
C'est donc Brice qui va partir.
Tant pis pour la demi-lune.
Tant pis pour ça. Je suis désolé, vraiment.
Merci.
Qui va partir.
Semi-moon.
La personne est dans la demi-lune.
Qui va partir pour Village. Allez voir sur Village tiré, je sais plus le titre, le site, voilà.
VVF.
C'est voilà vvf-village.fr. Merci Jean-Philippe Janssen d'avoir été avec
nous. Je vous en prie, merci beaucoup à vous.
Jean-Philippe est en tournée, vous retrouvez toutes les dates sur rtl.fr. Demain, nous serons en compagnie d'Alma et de Marie-Myriam. C'est une spéciale Eurovision. Eh oui, parce que on va partir pour Kiev avec Marianne James. Merci à tous d'avoir suivi RTL. Il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.